Avec nous ce matin, Agnès Verdier-Molinier, bonjour, directrice de la Fondation IFRAP, Jean-Marc Vittori, bonjour, éditorialiste aux Échos, et Denis Père, président de Nature and People First.
Bonjour.
On a quand même, Jean-Marc, ce matin, une note de conjoncture qui n'est pas facile à regarder.
Oui, elle est désagréable, et en même temps, elle n'est pas vraiment surprenante. Depuis l'après-Covid, l'économie française avance de manière extrêmement ralentie, elle est sur une pente de 1%, et quand elle se prend un pet, un choc, elle se retrouve pratiquement à l'arrêt. Et c'est ce qui se passe cette année avec les événements déclenchés par notre ami Donald en Iran, qui font flamber les prix du pétrole, les prix du gaz, donc les prix des énergies fossiles. Et donc, ça fait un choc qu'on retrouve. En plus, il ne nous a pas échappé qu'il a fait chaud cet été. Donc, ça a eu aussi quelques effets qui sont pris en compte dans la note, qui me paraissent chiffrés de manière, pour l'instant, assez minimale, puisqu'ils disent que ça ralentirait la croissance de seulement 0,1%. Ouais. Je pense que quand on fera les comptes à la fin, on se rendra compte que
notamment sur l'impact des prix,
a été plus important. Quand on va très lentement et que on se prend un bâton dans la roue, on est pratiquement à l'arrêt. C'est ce qui arrive à l'économie française.
Ce qu'il y a, c'est que on n'est pas tout seul à subir les prix du pétrole et du gaz, mais c'est pire chez nous que chez les autres pays européens. J'ai l'impression, Agnès Verdier-Molinier, que c'est une des premières fois qu'on répond on ne peut rien faire, on n'a pas de marge de manœuvre, donc on ne peut pas atténuer le choc. D'habitude, la France, c'est pas ça. On a toujours le petit coussinet qui nous permet, alors on fait pas beaucoup mieux que les autres, mais du coup, on connaît pas, nous, la vraie austérité avec les prix de l'énergie en plein dans la tronche. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui nous arrive.
Oui, c'est ce qui nous arrive, mais parce que aussi en 2022, 2023, on a fait des chèques à gogo, ça a coûté des milliards et des milliards. Et à l'époque, je me souviens, les oppositions disaient qu'il fallait en faire encore plus. Et en fait, on le sait, sur ce plateau, on a une addiction à la dépense, et on est à l'heure de vérité. Voilà, c'est maintenant. Maintenant qu'on est en train de voir qu'on est allé trop loin, qu'on a mangé notre pain blanc et que finalement, on peut plus rien faire. Alors, on peut plus rien faire. Finalement, le sujet, enfin, c'est intéressant de voir, par exemple, les recettes d'ex-TICPE à fin juillet. On voit qu'on est en baisse de 5,7% par rapport à l'année dernière.
Parce qu'il y a moins de consommation de carburant.
Oui. Alors, le problème, c'est ça. C'est toute la l'équilibre entre le niveau de taxation, les messages qu'il faut donner aux Français, etc. On voit que les Espagnols, par exemple, qui ont beaucoup plus baissé les taxes que nous, on pourra y revenir, en fait, ils ont pas de chute de consommation comme nous. Le sujet, à un moment, c'est que si on veut remplir les caisses publiques, si on est dans une situation comme celle d'aujourd'hui, faut peut-être aussi avoir le courage de dire, par exemple, payer de la TVA sur l'ex-TICPE, peut-être que c'est pas la peine.
Donc vous êtes pour baisser les taxes sur le carburant, quitte à avoir une rentrée fiscale, là, à très court terme, qui baisse, mais à récupérer sur l'activité.
En fait, la rentrée fiscale, elle baisse parce que les prix, ils montent. Donc il y a un effet volume à un moment et qui fait que de toute façon, les recettes, elles rentrent pas. D'ailleurs, le Premier ministre a fait moult communications pour dire pas du tout, c'est pas parce que les prix montent qu'on a plus de recettes, etc. etc.
C'est plus 9 millions quand même depuis mars sur les recettes globales de l'État sur le carburant.
Ouais, enfin, sauf que sur l'ex-TICPE, on voit qu'il y a une baisse, on voit qu'il y a une baisse de la consommation. Pourquoi il y a de la TVA qui rentre quand même à côté? C'est parce que quand le prix monte, la recette de TVA monte aussi. Mais on aurait pu, en fait, avoir beaucoup moins de baisse de consommation, beaucoup moins d'arrêt de l'économie et quasiment les mêmes recettes. Et c'est ça que nous, à la Fondation IFRAP, on reproche un peu au gouvernement, c'est de ne pas réussir à finalement trouver
l'équilibre.
Équilibre, parce que comme on a tellement l'habitude de faire des chèques, on préfère toujours faire des chèques plutôt qu'imaginer reculer un peu sur la fiscalité. Et pourquoi est-ce que Bercy aussi veut jamais reculer sur la fiscalité? Parce qu'il pense qu'une fois qu'on aura reculé sur la fiscalité, on ne pourra pas revenir dans l'autre sens. Je trouve que c'est typiquement français, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans la logique de revoir cette pression fiscale pour finalement déclencher plus de croissance. Et là, Jean-Marc le disait, finalement, on est plus impacté que les autres pays parce que nous, on avance très, 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 très lentement. Mais pourquoi on avance très, 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 très lentement? Mais parce qu'on est ultra taxé. Et moi, je suis étonnée que dans la note de conjoncture de l'INSEE, à un moment, on ne dise pas peut-être qu'il faudrait revoir le sujet de notre fiscalité. Voilà. Quand on a trois fois moins de croissance que les autres, dans une
l'INSEE fait pas de politique. C'est déjà enfin, un pas politique.
Non, attendez. Là, il y a un sujet quand même.
Attendez, on a une heure.
Pourquoi on se retrouve à avoir une croissance aussi en berne par rapport aux autres pays, alors que on subit les mêmes sujets et les mêmes contraintes internationales.
Denis.
Oui, c'est intéressant. Moi, je pense qu'on est dans l'effet l'affaire dans plein de domaines, c'est-à-dire cette fameuse courbe au-delà de laquelle le rendement est négatif, effectivement. Le cas de l'Espagne dont parlait Agnès est intéressant. L'Espagne a un taux de croissance de 2,5% cette année. Quand on est à 0,4, au passage, on est à 0,4, on est au tiers, effectivement, de la moyenne de l'Union européenne. Donc, c'est une catastrophe avec le même environnement géopolitique, avec des hausses, effectivement, des prix des carburants partout. Nous, on est au tiers. L'Espagne, dirigée par un socialiste d'ailleurs, quand on regarde la fiscalité, par exemple, sur un sujet qui est important pour un entrepreneur, un investisseur, sur les dividendes. Nous, on a le PFU qui vient de monter, qui était à 30%, qui vient de monter à 31%. L'Espagne, elle est à 15% sur les dividendes. Elle est à plus de deux fois moins. Et ils font 2,5% de croissance quand on fait 0,4. Enfin, je veux dire, vous regardez pratiquement tous les sujets fiscaux, vous découvrez effectivement des écarts qui sont absolument considérables. Un pays qui est surtaxé, qui surdépense et qui par définition est surtaxé, est un pays qui sous-performe. C'est une évidence. Et ce qui est catastrophique, c'est que le débat public aujourd'hui est monopolisé par des gens qui n'ont que de nouvelles idées de taxation. Je veux dire, le concours Lépine de la nouvelle taxe est lancé à fond pour la campagne présidentielle. On n'entend parler que de ça. On n'entend pas parler de maîtrise de la dépense. Alors, c'est une évidence et une nécessité absolue. Donc, effectivement, on est heureusement autour de ce plateau, après tous convaincus de ça, mais dès que vous changez d'antenne et de plateau, vous n'entendez parler que de nouveaux impôts. Et c'est ça le fond du sujet, le fond du problème, avec une classe politique qui n'a pas le courage, effectivement, de dire ces choses-là, de faire la pédagogie auprès des Français sur le fait que trop d'impôts tuent l'impôt.
Mais Jean-Marc, ça fait 17 ans que cette émission existe, ça fait 17 ans qu'on essaie de baisser les dépenses.
Je pense qu'il faut voir qu'en France, on a une préférence collective pour la dépense publique. Oui. C'est pas par hasard si la France a un taux de dépense publique rapporté au PIB plus élevé que dans pratiquement tous les autres pays au monde. Ça correspond aussi à une préférence collective qui, selon moi, s'enracine dans une histoire très profonde, très ancienne. La France a été le premier pays, grand pays centralisé. Ça remonte, on peut dire, à Charlemagne, Philippe le Bel, enfin on peut se battre là-dessus, mais ça remonte pratiquement à
donc on va pas les baisser.
Et je pense que c'est très compliqué de les baisser. Celui qui en Allemagne, quand vous attaquez à la dépense publique, vous attaquez à un truc technique. En France, quand vous attaquez à la dépense publique, vous attaquez à l'État. Et l'État est au cœur de l'identité nationale. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de l'Italie, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, du Royaume-Uni, des États-Unis. En France, l'État est au cœur de l'identité nationale. Donc, quand vous attaquez la dépense publique, c'est perçu comme une attaque contre l'État, qui est le cœur de notre identité. Voilà. Et donc, effectivement, tous ceux qui sont soupçonnés de vouloir baisser la dépense publique, ils sont soupçonnés aussi de vouloir s'attaquer à l'identité nationale. Je pense qu'il y a un lien caché qu'on ne voit pas assez entre l'importance de la dépense publique
et
la fragilité sur l'identité nationale qu'on sent bien en ce moment. Il n'y a pas besoin de vous faire un tableau là-dessus.
Agnès, vous faites une raison, on ne baissera pas les dépenses.
Alors, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que justement, avec les taux que vous avez évoqués tout à l'heure sur l'OAT à 10 ans, on arrive vers les 4,4%, c'est gigantesque. Alors, ça dépend des heures, des jours, mais là, on était devant l'Italie. On se dit, mais où on va, en fait, sur cette boule de neige de la charge de la dette. Les évaluations qu'on a faites à la Fondation IFRAP, elles sont quand même assez inquiétantes. On serait à 147 milliards de coûts annuels de la dette à l'horizon 2032. Et ça, c'est en comptant qu'on est à 4%, d'accord ? Si on est à 4,4, 4,5, 4,6, 5, c'est beaucoup plus. C'est plutôt de l'ordre entre 150 et 180 milliards. Donc, en fait, on ne va pas pouvoir s'en sortir sans afficher qu'on a un vrai plan d'économie, parce que le redressement, il doit se faire par les économies, parce qu'en fait, ce qu'a expliqué Denis, c'est vraiment qu'on est au maximum de la pression fiscale. Donc, tout ce qu'on va inventer comme impôt nouveau, ça ne rapportera pas les recettes escomptées. Donc, la seule solution
pour baisser le déficit primaire avant la charge de la dette, c'est baisser la dépense. Et nous, depuis des années, on explique que c'est possible de baisser les dépenses parce que plein de pays l'ont fait et qu'en fait, il n'y a aucune raison que la France n'y arrive pas.
C'est identitaire, non, mais, dit Jean-Marc.
Non, mais quand Jean-Marc dit ça, c'est parce qu'en fait, il pense à l'identité finalement presque syndicale de la France.
Hélas, pas uniquement.
Mais, oui, non, mais j'entends bien. Mais finalement, si on refait le film, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 quand Édouard Philippe veut faire un système universel des retraites?
Il le veut pas.
Qui est dans la rue? Les gens de la SNCF, les gens des ministères, les gens du privé, ils sont pas dans la rue, ils bloquent pas. Donc pourquoi ils sont dans la rue? Ben parce qu'ils ont des régimes spéciaux de retraite qui sont beaucoup plus favorables et qui nous coûtent des milliards d'euros par an, des milliards de déficits.
Et qu'est-ce qu'on fait en recul?
Des milliards de déficits cachés. Oui, mais en fait, l'identité en question, est-ce qu'elle est qui est pro-État, pro-administration, pro-dépenses publiques, est-ce qu'elle est partagée par tout le monde? Vous savez, on a fait un sondage à la Fondation IFRAP en septembre de l'année dernière à la demande de tous ceux qui venaient vers moi et qui me disaient, mais écoutez, moi, on en a marre, on est prêt pour les réformes. Pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps à la télé et à la radio qu'on n'est pas prêt? Et alors, ils me disent, faites des sondages. Nous, on n'aime pas trop faire des sondages au départ parce qu'on disait, bon, c'est pas finalement une plus-value énorme et tout. Mais on pose des questions aux Français. On leur dit, avec Odoxa, est-ce que vous préférez la baisse des dépenses ou la hausse des impôts? 82% de nos concitoyens, ils sont pour la baisse des dépenses. Et je pense à ce sujet de l'éducation. On a parlé de PISA. PISA, c'est un énorme sujet quand même pour la France. On se retrouve 27e dans le classement mondial. On était 14 ou 15e en 2000. Nous, on montre depuis des années que le privé sous contrat est meilleur. Les parents plébiscitent le privé sous contrat. Ils ne demandent que ça. Il y a des files d'attente énormes pour aller dans les établissements privés sous contrat. Et c'est pour les financeurs publics 50% moins cher par élève. Si on mettait le nombre d'élèves que les parents aimeraient mettre dans le privé sous contrat, parce que s'il y avait les places, parce qu'en fait il y a une pénurie organisée par l'État, parce qu'il y a cette règle qu'il n'y a que 20% qui va financer l'école privée sous contrat, et c'est un papier que j'ai publié dans les Échos hier.
Mais donc si on prenait les 50% sujet, pour les mettre où? Dans le public?
On les mettrait dans le privé, on mettrait 50% des élèves dans le privé, on pourrait faire 10 milliards d'euros d'économies par an sur la dépense d'éducation. C'est gigantesque. Et alors, on est en train de regarder les résultats PISA entre public et privé. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais
je crois que je préfère travailler plus que d'aller mettre mes enfants dans le privé. Hein. Je dirais à la fin, si c'est...
Pourquoi? Non, mais attendez, vous savez qu'il y a 56% des parents d'élèves qui ont leurs enfants dans le public qui aimeraient avoir une place dans le privé sous contrat pour leurs enfants. C'est gigantesque. Et les résultats sont meilleurs. Le PISA qui est fait sur les élèves du privé sous contrat, il y a des meilleurs résultats. Et les chiffres même du ministère de la rue de Grenelle montrent que la valeur ajoutée est meilleure dans le privé sous contrat et que les résultats en lecture, en mathématiques, etc. sont meilleurs pour un prix moins cher. Donc les économies, il y en a partout à faire en France.
Denis, vous pensez vraiment que... Vous aussi, vous êtes là depuis 17 ans dans les experts, non?
À peu près, oui.
Et vous essayez de baisser les dépenses, non? Vous pensez vraiment qu'on peut y arriver?
Mais absolument. Enfin, moi, je suis convaincu d'abord, comme Agnès, que beaucoup de Français en sont absolument convaincus, sont convaincus de la nécessité de le faire. Je suis d'accord avec Jean-Marc pour dire qu'il y a des réticences, il y a effectivement une pesanteur, certainement une histoire, des syndicats, évidemment, qui sont très contre, mais qui ne représentent qu'une toute petite partie de la population. L'immense majorité de la population est convaincu aujourd'hui, ça se voit, qu'on n'en a pas pour notre argent. Enfin, les résultats PISA sont catastrophiques alors qu'on dépense plus que les autres.
Dès que vous annoncez que vous allez couper quelque chose, ça ne marche pas. Regardez les retraites, on ne l'a pas fait.
On va en parler, mais regardez même dans la santé. Dans la santé, on dépense 45 milliards de plus que la moyenne de l'eurozone, hein, 1,5 point de PIB de plus, 45 milliards de plus, pour un système avec des déserts médicaux partout, même à Paris. Hein, essayez de trouver un dermatologue à Paris, vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai essayé récemment, ça a été très compliqué. Donc, des déserts médicaux partout, des attentes invraisemblables aux urgences,
le taux de mortalité.
Oui, mais parce que je pense qu'on n'a pas la bonne méthode. Je pense que la bonne méthode, c'est déjà d'essayer de trouver un accord avec les syndicats, avec les fonctionnaires. Je pense qu'une partie des économies doit être reversée aux fonctionnaires qui participent à l'identification de ces économies. Peut-être une dizaine de pourcents sous la forme de hausse de salaire avec une partie variable, avec une partie variable, en profiter pour introduire cette notion-là. Un problème majeur aussi, c'est un problème majeur.
Vous voulez faire des primes pour les fonctionnaires qui trouveraient des économies autour d'eux.
Bien sûr, c'est ce que font toutes les entreprises privées.
Ouais.
C'est classique. Des primes, effectivement, une partie d'économies qui serait reversée aux fonctionnaires sous la forme de salaire variable, encore une fois, c'est très important. Et puis reverser aussi une partie des économies aux Français sous la forme d'une baisse de CSG, par exemple, pour que les Français s'y retrouvent aussi, que ce soit populaire, que la réforme de l'État soit populaire. C'est ça qu'il faut faire. Et ça n'a jamais été proposé.
Est-ce qu'il n'y a pas plus de chances de les faire travailler plus ? Est-ce que c'est pas presque plus vendeur que de baisser les dépenses ?
Les faire travailler, bah, c'est nécessaire aussi, je veux dire, pour les retraites. Je veux dire, si vous regardez les grands problèmes hein, de dépenses, les grands écarts hein, par rapport à l'eurozone, on dépense 7,2 points de PIB de plus, hein, Agnès me corrigera si je me trompe, 220 milliards d'euros à peu près de plus que la moyenne de l'eurozone. C'est quoi les grands postes ? Le premier poste, c'est
les retraites.
C'est la retraite. 66 milliards sur la retraite. Donc, bien sûr qu'il faut travailler plus. Et bien sûr qu'il faut faire un travail de pédagogie qui n'a pas été fait en France. C'est un scandale. Il doit être fait. Tous les pays d'Europe l'ont fait. Tous, même la social-démocratie danoise qui est admirée par tous les socialistes et les gauchistes français, ils vont bientôt travailler jusqu'à 70 ans. Ils sont tous
c'est
d'accord.
C'est ce que propose le commissariat au plan.
Voilà. Le commissariat au plan s'y met, mais c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, cette pédagogie, elle n'a pas été faite. Pourquoi ? Parce que on le sait très bien, enfin les chiffres on les connaît, il y a un problème démographique, il y a un choc démographique, d'une part, et d'autre part on vit plus longtemps, donc c'est assez normal qu'on travaille plus longtemps aussi. Sinon on met nos enfants dans une situation catastrophique, on est quand même en train de s'endetter aujourd'hui pour financer les retraites des gens qui ne veulent pas travailler plus longtemps aujourd'hui, et ce sera payé par qui ? Par nos enfants et nos petits-enfants. C'est un scandale ! Enfin, vous expliquez ça aux Français.
On fait ça depuis 50 ans.
Eh ben oui, mais on ne l'a pas expliqué comme ça aux Français, je pense. Je pense qu'il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à augmenter l'endettement du pays pour financer la retraite de gens qui refusent de travailler plus longtemps, alors que tous les pays d'Europe ont accepté de travailler plus longtemps, mais Denis, depuis très longtemps ?
Denis, vous proposez finalement d'inciter les agents publics à trouver des économies. Je pense qu'il faudrait aussi inciter les parlementaires à trouver des économies.
Bien sûr aussi.
Parce que ça m'amuse un peu de voir le Premier ministre qui dit on va baisser de 10% les salaires des ministres. Alors, ça fait 456 000 euros d'économie, si j'ai bien compris.
On s'en fiche, les gens n'ont pas les échelles. Donc
ça fait 0,004% de l'économie nécessaire si on voulait équilibrer
ça les comptes. Ça permet de ne pas parler des retraites.
Ouais, mais en fait, je pense que le sujet, ce n'est pas que les ministres. Et les cabinets ministériels, certes, ils ont fait des erreurs, beaucoup d'erreurs ces dernières années. Mais c'est aussi nos parlementaires. Nos parlementaires, chaque fois qu'on leur met sous le nez une idée d'économie, alors on leur dit, attends, il va falloir travailler plus longtemps. Et puis tout d'un coup, ils réclament de revenir en arrière sur la réforme des retraites. Enfin, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, les transports sanitaires, les franchises médicales, etc. Chaque fois qu'on sort une proposition d'économie, c'est la bronca à l'Assemblée nationale. Et moi, je trouve qu'il faudrait qu'on ait une véritable incitation pour nos parlementaires, à ce qu'ils soient incités à équilibrer les comptes hors charge de la dette, hein, c'est-à-dire à faire un équilibre primaire. Et comment on pourrait faire ? On pourrait dire que la moitié de leur indemnité, elle n'est pas versée, donc on n'est pas à 3%.
Mais Agnès, il faut leur interdire de retourner dans les circonscriptions pour ne pas se prendre des baffes dans ces cas-là. C'est ça le problème.
Et le sujet, c'est que par exemple, la CDHR, vous savez, la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous avez vu que dans le budget 2026, ça a été mis noir sur blanc, qu'elle serait prorogée jusqu'à ce que le déficit soit à 3%. Vous avez vu ça ? Mmh. C'est quand même intéressant.
Donc, ça n'arrivera
que
jamais.
Les Français, on leur dit, vous, on va vous taxer jusqu'à ce qu'on soit à 3%. Mais alors, les députés, on leur dit jamais, on va vous taxer jusqu'à ce qu'on soit à 3%. Je crois qu'à un moment, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils soient réveillés. Alors, évidemment, cette proposition...
Mais ils retournent dans les circonscriptions tous les week-ends et ils se font engueuler en disant qu'ils font rien pour le pouvoir d'achat.
Attendez...
Jean-Marc, aidez-moi parce que...
Non, mais c'est vrai. C'est...
Politiquement, non, mais je veux dire, on a toujours raison sur ce plateau, sur le plan de la rationalité économique et politiquement, zéro.
Quand vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée, quand vous discutez avec des députés, quand vous les voyez effectivement revenir de leur circonscription, ils n'ont qu'un seul mot en tête et dans la bouche, c'est taxe. Ils n'ont que ça en tête. Ils n'ont pas une seule idée d'économie.
Ce n'est pas ce que demandent leurs électeurs.
Oui et non. Oui et non. Parce que chaque fois qu'il y a un projet d'économie, l'électeur qui est concerné par l'économie dans la circonscription, il vient le samedi matin et il hurle. Et le député, il entend. Ouais. Et là, on est dans l'économie politique. Hein, c'est-à-dire que les réformes qui font mal à quelques-uns et qui profite au plus grand nombre. Le plus grand nombre ne s'en rend pas compte, mais les quelques-uns, eux, savent qu'ils vont se prendre une baffe dans la figure. Et donc, ils
font beaucoup de bruit.
Haut et fort. Ça se passe sans arrêt en France. Vous prenez n'importe quel sujet, les retraites, c'est un très bel exemple. Mais vous prenez la santé, c'est pareil, l'école, c'est pareil. Sur tous ces sujets-là, vous avez une minorité qui pourrait être concernée par des efforts, à qui on pourrait demander d'en faire un peu plus, qui proteste haut et fort. Et la grande majorité qui finance de fait par leurs impôts, c'est cette petite minorité, ne se rend pas compte de l'enjeu.
En fait,
ne fait
moi,
rien.
Je suis pas du tout d'accord. Parce que
l'INSEE,
elle montre quoi? Elle montre qu'on a un pouvoir d'achat qui baisse.
Bien sûr.
On est en pourcentage du PIB par habitant, on est en dessous de la moyenne européenne. Est-ce que les Français, ils voient bien qu'on est en train d'être déclassés, en fait, par rapport à nos voisins européens?
Pas de doute.
Donc, si le sujet, c'est le pouvoir d'achat, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dépenser plus et taxer plus, il faut que les Français comprennent que c'est l'impasse. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et je trouve que peut-être qu'il y a une minorité qui crie à chaque fois qu'il y a une mesure. Mais en réalité, l'immense majorité des Français, ils attendent que ça, qu'on rebooste le pouvoir d'achat. Mais comment ? Bah, en produisant plus, en ayant la possibilité d'avoir un net in the pocket qui est plus important. Bah, pourquoi ? Parce qu'il y aura un modèle social qui sera moins cher, qui pèsera moins sur le travail. Mais pour avoir, mais l'histoire de la TVA sociale, en fait, c'est en partie un leurre parce que ça prendra jamais les écarts qu'on a avec les autres pays en niveau de cotisation. Donc à un moment, il faut baisser le coût du modèle social. Et pour baisser le coût du modèle social, bah, Denis l'a dit. C'est baisser le coût des retraites, ben ça veut dire travailler plus longtemps. Baisser le coût de la santé, ça veut dire aller chercher les économies. L'absentéisme, comment ça se fait qu'on n'ait pas une vraie mesure de baisse de l'absentéisme qui nous coûte 30 milliards entre le privé et le public, 30 milliards par an? Vous vous rendez compte, la masse de...
Regardez les sondages, hein, ceux qui sont devant, c'est ceux qui proposent la retraite à 60 ans et d'augmenter les dépenses. Donc ça me paraît assez parlant. Denis.
Pour revenir sur les députés et leur popularité dans les circonscriptions, ils seront populaires si chaque fois qu'ils trouvent 100 euros d'économie, il y en a 30 qui vont dans la poche des citoyens. Il y a entre 60 et 100 milliards d'euros à trouver dans le fonctionnement de la sphère publique. Agnès me le confirmera probablement. C'est des chiffres qui sont confirmés.
Ouais.
Allez, 119, voilà, c'est même un peu plus, selon l'IFRAP. Si à chaque fois qu'on fait, encore une fois, 100 euros d'économie, il y a 30 qui va dans la poche des contribuables sous la forme d'une baisse de CSG. Un point de CSG, c'est 7 milliards d'euros. Donc, c'est pas tant que ça. Et ça, c'est de l'argent, c'est du net-net dans la poche du contribuable. Donc, quand vos députés ils vont retourner dans la circonscription et ils vont dire « Ah, ça y est, on a trouvé 20 milliards, il y en a tant de milliards qui vont dans votre poche et donc il y a tant de salaires de plus net à la fin du mois pour vous. » Ils seront populaires. Et par ailleurs, il faut arrêter de croire que la réforme de l'État, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose qui sera... Non, pourquoi ? Parce que vous avez 499 000 fonctionnaires qui quittent la fonction publique chaque année. C'est un chiffre de l'INSEE. Vous avez les départs à la retraite, bien sûr, c'est environ 170 000. Et vous avez des démissions, beaucoup, malheureusement. Et puis, malheureusement, des décès aussi. Et donc, vous avez un volant absolument considérable. Je rappelle que Emmanuel Macron voulait baisser le nombre de fonctionnaires de 135 000 sur son mandat, sur le premier mandat. Il a augmenté d'à peu près 135 000, il ne les a pas baissés. Là, on parle de 500 000 départs chaque année. Chaque année. Sur un mandat, c'est 2,5 millions de fonctionnaires qui quittent la fonction publique. Donc, vous avez... sans douleur, la possibilité de supprimer ces postes. Alors, on ne va pas en supprimer 500 000 chaque année, mais vous allez supprimer des postes, ça ne fera pas de bruit. Par contre, ça suppose un travail de réingénierie, effectivement, de la fonction publique, qui est lourd, qui est complexe.
Parce que quand on a supprimé des fonctionnaires sous Sarkozy, on l'a vu quand même, l'impact sur la police.
Ça a été fait de façon complètement différente de ce que je pense qu'il faut faire. Ça a été fait, effectivement, de façon très top-down, hein, voilà, décidé à Bercy. Il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire en partant de la base, en impliquant les fonctionnaires concernés. C'est ce que font d'ailleurs tous ceux qui ont un peu réformé, parce qu'il y a des expériences de réforme de la fonction publique. Il y en a eu dans les conseils régionaux, il y a par exemple le conseil régional des Pays de Loire qui a fait des choses. Il y a David Lisnard, le maire de Cannes, qui a fait ça, qui a fait des cercles de qualité avec ses équipes. Chaque fois qu'il y a un départ à la retraite, ils se réunissent, ils disent « est-ce que ce poste, il faut le remplacer ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et à chaque fois, ils décident, en général, de pas le remplacer. Ils s'organisent différemment. Donc, ça suppose effectivement un réengineering. Mais c'est tout à fait possible. Ça a déjà été fait. Ça doit juste être fait à une échelle plus importante. Et donc, c'est pas du tout du sang et des larmes. Effectivement, le problème aussi, c'est que la plupart des dirigeants politiques pensent que c'est du sang et des larmes. C'est pas du sang et des larmes. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui sont très favorables à ça. Il y a beaucoup de premières lignes qui n'en peuvent plus de la bureaucratie. Et ce qu'on veut faire, c'est évidemment lutter contre la bureaucratie. J'ai rencontré Guillaume Casmarian il n'y a pas très longtemps, qui a été ministre de la fonction publique pendant quelques temps, pendant quelques mois. Il me l'a dit, je ne sais pas s'il le répéterait sur ce
plateau. C'est le libéral du groupe, quoi.
Il dit très, très clairement, il dit, quand j'allais voir les hôpitaux publics, je leur demandais ce que je pouvais faire pour eux. C'est une démarche plutôt intelligente de la part d'un ministre qui est à l'écoute effectivement des administrés et surtout des fonctionnaires en charge, en l'occurrence, de la fonction publique. Et il me disait la réponse unanime, partout en France, c'était « aidez-nous à nous débarrasser de la bureaucratie ». Aujourd'hui, les fonctionnaires eux-mêmes sont les premières victimes de la bureaucratie.
Mais bien sûr,
ils ne vont pas s'opposer.
Je ne sais pas si c'est pas, Jean-Marc, c'est pas un fantasme aussi, parce que dans une boîte, vous supprimez les RH et les services généraux, ça ne marche plus en fait.
Cette idée qu'on a une bureaucratie
qui nous empêche de libérer notre croissance.
C'est documenté. Alors c'est documenté.
Mais dans une entreprise, quand vous supprimez les RH et les services généraux, ça ne marche plus. Mais dans une entreprise, on passe son temps à réorganiser de manière douce ou parfois de manière moins douce, mais à se demander comment travailler mieux avec les nouveaux outils, par exemple. Si vous réfléchissez au travail de l'administration, une partie très importante du travail de l'administration, c'est traiter de l'information. Est-ce que, en matière de traitement de l'information, on n'a pas eu depuis un demi-siècle un léger changement des outils qui permettent de traiter l'information? Moi, j'ai tendance à penser que oui, je vais peut-être même faire traiter de techno-solutionniste, mais j'ai tendance à penser qu'on a des outils qui permettent de traiter l'information de manière infiniment plus efficace, et ce n'est pas fini. Est-ce que vous avez vu un changement de l'organisation de services qui traitent de l'information pour ça? Non, c'est absolument effarant.
Quel fisc qui s'est modernisé l'argent.
C'est vrai. On peut dire qu'ils
ont aussi laissé fuiter des données, alors qu'il y a 5000 agents au service informatique.
Mais ça marche pour vous, Jean-Marc?
Mais
plus d'IA.
Réorganiser en fonction de ce que permet le numérique. Voilà, dans n'importe quelle entreprise, on fait ça à longueur de journée.
C'est un levier considérable.
Et si vous regardez n'importe quelle entreprise, en France, on est organisé toujours de la même manière. Et quand on informatise les services publics, alors je sais bien qu'il y a des gens dans le service public, parce que je vais me faire mitrailler là-dessus, parce qu'il y a des gens dans le service public qui s'efforcent honnêtement de faire ce travail-là et qui parfois y arrivent. Mais de façon très générale, il y a encore énormément à faire. En France, quand on veut informatiser un service public, on prend le service tel qu'il est et on met l'ordinateur tranche par tranche. Oui. Au lieu de se dire comment est-ce qu'avec le numérique on pourrait réorganiser le système. Je viens de subir une rentrée, j'en suis maintenant, si je compte mes deux générations d'enfants, je crois que voilà, ça doit être ma 35e rentrée ou quelque chose comme ça. Je remplis 8 fois de suite les mêmes formulaires pour 8 endroits différents de l'école primaire, du collège et maintenant du lycée. Et derrière, il y a des gens qui rendent ça ensuite avec des horreurs parce que j'ai pas reçu le truc de la cantine parce qu'ils se sont plantés quand ils ont repris le papier sur lequel j'avais mis l'adresse mail.
Je vous remercie, ça nous fait du bien à tous.
Et vous dites que derrière, il y a 8 personnes différentes qui ont ressaisi ces infos que moi-même j'ai. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait organiser ça un tout petit peu mieux en évitant les fuites de données, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire à condition de vouloir le faire et d'être conscient du problème. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel
immense,
mais ça suppose de faire une réorganisation profonde.